Claire Burguin, Clément Debert, bonjour.
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 Donc, vous présentez une exposition sur l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays qui fait certainement rêver certains. Peut-être pour d'autres, un pays avec des contradictions, c'est le moins qu'on puisse dire. Un pays sur lequel on s'interroge. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à aller en Éthiopie ?
Clément et moi, nous avons été motivés pour des raisons vraiment très, très différentes. C'est un coup de cœur pour chacun d'entre nous. Pour ma part, c'est vraiment les images que j'ai pu en voir qui sont finalement vraiment des clichés. C'est loin de représenter la totalité de l'Éthiopie, comme vous le disiez. C'est un pays très, très diversifié, très, très bigarré, toutes les couleurs. Moi, j'avais des images surtout de paysages. C'était les paysages grandioses, les hauts plateaux dans le nord du pays, ces volcans, ces lacs de soufre dans l'est du pays, une végétation luxuriante dans le sud. Moi, c'est un coup de cœur sur la beauté d'un pays. Qui m'a décidé à partir et après j'ai découvert beaucoup d'autres choses sur place qui feront que j'y retournerai, mais à la base moi c'est ça qui m'a décidé, c'est les paysages, la beauté du pays visuel.
Donc vous y êtes allé au départ plutôt pour faire des photos ou plutôt pour faire des reportages écrits, comment ça s'est passé?
On y est allé pour les deux, on fait à la fois du texte et à la fois de la photo. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre de toute façon, donc on avait tout ce qu'il fallait pour faire de la photo, on avait le matériel qu'il fallait, un minimum parce que c'est lourd et cher, donc on ne peut pas non plus partir avec... on avait les appareils photo argentiques, numériques, les pieds, et puis le bloc-notes et le crayon pour faire le texte qui allait avec.
Il y a un mini-disque pour pouvoir enregistrer des reportages sonores aussi.
Donc quand on part dans un pays faire des reportages, a priori on a quelques sujets qui sont dans la tête à traiter et puis d'autres qu'on trouve sur place.
On avait travaillé pendant environ 8 mois en fait à définir des sujets de reportage et on s'est aperçu, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'en a mené que 3 en fait de ces sujets-là, mais on a mené bien d'autres sujets en fait qui étaient liés à des rencontres et notamment celui sur le cat, une plante donc liée un peu à l'amphétamine qui a les mêmes principes actifs. On s'est aperçu que là-bas c'était une culture, que c'était une industrie quasiment, puisque ça commençait à remplacer le café dans plein de régions. Et voilà, ça, on n'en avait pas entendu parler avant, on l'a découvert sur place, et on a goûté nous-mêmes, et puis on s'est dit, voilà, c'est tellement énorme ici qu'on ne peut pas ne pas en parler alors qu'on est en Éthiopie.
Votre première impression à l'arrivée en Éthiopie, vous arrivez a priori dans un aéroport ?
On arrive à l'aéroport d'Addis Abeba qui est extrêmement riche puisque donc il y a le siège de la communauté des nations africaines, je sais plus le nom exact, l'Union africaine, voilà. Donc c'est un aéroport qui ne change pas beaucoup de ceux qu'on connaît ici en France. Par contre, voilà, on est parti en taxi, ce qui est en dehors de la ville, et au premier carrefour, il y a des gamins lépreux qui ont commencé à venir taper sur les vitres avec des moignons. Là, on a compris que c'était pauvre, quoi. On était les blancs. Représenter de la richesse, quoi, des choses qu'ils ne voient pas souvent, et puis des gens riches.
Et donc, après la pénétration, j'allais dire, à l'intérieur des terres, ça se fait progressivement, vous vous accoutumez ?
On a eu beaucoup de chance puisqu'on a rencontré des expatriés, donc au départ qui nous ont beaucoup orientés, qui nous ont fait rencontrer des personnes. On a beaucoup travaillé en fait par rapport à des rencontres. Une rencontre nous amenait vers une autre personne, encore vers une autre personne. Ces personnes-là nous donnaient des idées de reportage et voilà, on a vraiment fonctionné comme ça. Il y a quelques reportages qui étaient prévus à l'avance et beaucoup d'autres qu'on a puisqu'on a rencontré des gens avec des destins extraordinaires.
Puis on a essayé d'être malléable aussi, dans le sens où l'arrivée, comme le disait Clément, elle est assez difficile, elle est choquante, l'arrivée est dure. Mais alors après, il faut accepter les choses, la misère est là, on l'accepte. On se blinde, puis on est malléable, on accepte que les choses se passent pas comme chez nous, la culture est différente, ça fonctionne pas. On apprend à savoir comment fonctionne la société, comment ça marche, des choses très simples, comment on prend le taxi, comment on l'appelle, et le fait d'y rester un bout de temps, à la fin, au bout de 2 mois, on se sentait très bien, quoi. Alors que les choses n'avaient pas évolué, hein, les gens n'étaient pas plus riches quand on est reparti, c'est malheureux à dire, mais on s'habitue, même aux pires horreurs, on s'y habitue.
Alors, parfois, les gens ont tendance à comparer la façon dont on vit en France, la culture française, par exemple, et ce qu'ils découvrent en arrivant sur place, au lieu de comprendre d'abord comment ça fonctionne sur place, quitte après à faire le rapprochement. Est-ce que c'est pas un peu le piège du journaliste de toujours essayer de voir ce qui va pas là-bas par rapport à ce qu'on croit aller bien chez nous?
C'est qu'il y a des choses qui nous ont un petit peu étonnés au tout début, où on se disait, moi, l'anecdote qui me vient à l'esprit, c'est dans des bus bondés qui mettent des heures et des heures pour faire parfois des petits trajets. Et un de ces bus, en fait, on était à l'intérieur, il est tombé en panne. Il est tombé en panne au bout de peut-être 3 heures de route de la capitale. Et l'affréteur, le conducteur et le chef de l'entreprise qui était là, qui gérait un peu cette entreprise de transport, disait aux gens, ne partez pas, n'ayez pas peur, il y a un autre bus qui va arriver d'Addis Abeba dans 1 heure. On avait déjà fait 3 heures de route et il y a un autre bus qui allait arriver comme par miracle dans 1 heure. Et les gens étaient restés à l'intérieur du bus, ils étaient très sages, ils voulaient pas récupérer les bagages. Alors nous, on essaie de monter un peu les gens contre le conducteur en disant, nous on veut récupérer les bagages, on va se débrouiller, on va faire autrement. Mais il y avait des vieillards, il y avait des femmes avec des jeunes enfants et tout le monde restait là, soit dans le bus ou en plein soleil, et voilà, ils avaient une assurance totale que ça allait bien se passer. Pourtant, on savait très bien, et je pense que ce bus de remplacement n'est jamais arrivé. Mais ils étaient... C'est comme avec le sida, on a l'impression, c'est une fatalité, mais c'est normal, c'est pas grave, c'est la vie. C'est un truc, on a eu beaucoup de mal à s'y faire. On avait, nous, nos façons de réagir d'occidentaux, je pense.
Comment vous avez été intégré, accepté par les gens sur place ?
On a été extrêmement bien accepté. Moi, il y a une gentillesse totale. Et moi, j'avais très très peur aussi par rapport aux questions de différence de moyens de vie. Même si nous, en France, on n'appartient pas aux classes les plus riches, pour eux, on est l'équivalent de milliardaires pour nous, en fait. Et c'est vrai qu'à côté, on a du matériel qui coûtait très très cher. Quand on compare, donc un Éthiopien gagne un salaire moyen de 15 dollars par mois ou 30 dollars. C'est quelque chose de ridicule. Et pourtant, on ne s'est jamais senti en danger par rapport à cet argent qu'on avait et pas eux. On n'a jamais senti de rancœur. Il y a bien des gens qui essayaient toujours de... Voilà, est-ce que tu peux nous acheter un uniforme pour qu'on aille à l'école ou nous donner un petit peu d'argent? Bien sûr, des gens essayaient, mais ils nous acceptaient tels qu'on était, avec la grosse différence qui était celle de combien on pouvait avoir d'argent sur nous. Mais ça s'est passé tout naturellement. Et ils étaient très curieux aussi, très curieux de savoir comment nous on vivait, comment... Ils avaient une image de l'Occident et surtout des États-Unis, bien sûr, puisqu'ils écoutaient du rap 50 Cent, des trucs comme ça, quoi. Ils avaient un côté... eux, l'image de l'Occident qu'ils avaient, c'était ça. C'était en gros des rappeurs qui réussissent dans la vie et qui font des affaires.
Et pour la communication, la langue, c'est une vraie barrière ?
Ah oui, clairement. C'est... eux parlent l'amharique, la langue officielle c'est l'amharique, donc une langue dont personne ne connaît à part eux, avec un alphabet en plus différent. Déjà, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de dialectes différents selon les peuples, les ethnies. Même entre eux, des fois, ils ne se comprennent pas. Donc, nous, on a beaucoup parlé anglais. On voyage anglais ou français aussi avec des gens, puisqu'il y avait pas mal d'écoles françaises, des choses comme ça. Donc on est passé par ces intermédiaires-là pour trouver des interprètes sur place, des gens qui étaient bilingues et qu'on payait, pas énormément, mais qu'on payait un peu pour faire les traductions. Mais en campagne ou quand on sortait d'Addis Abeba, si on n'avait pas un contact, soit des religieux, donc des gens qui étaient plus éduqués, soit donc des personnes un peu plus riches, soit bah, des gens qui avaient la chance d'être bilingues, bah, on était coincés. Y a beaucoup de gens qui ne parlaient qu'amharique ou que leur dialecte local. Et on se rend compte que même le langage des signes, bah, ça limite énormément. Et c'est je trouvais ça un peu dommage aussi parce que ça... Bah, ça limite l'intégration, c'est une première barrière qui est très dure à surmonter et on se comprend pas, on sait pas, on a du mal, on peut poser des questions très simples, par où faut aller pour avoir des directions, on s'en sort toujours, mais pour aborder des sujets un peu plus compliqués, un peu plus intéressants, bah, on est coincé, on peut pas.
C'est qu'on se sent toujours limité. Une fois, un petit restaurant, on avait essayé de faire couleur locale et on avait des petits guides avec des traductions. On avait essayé de commander un plat en amharique et en fait, le serveur n'a jamais compris ce qu'on voulait dire. Et on lui montrait sur le guide, puisqu'il y avait écrit en amharique pour lui dire bah, « c'est ça qu'on te demandait ». Et en fait, je crois qu'il ne savait pas lire en fait. On s'en est aperçu après. Donc non, la communication, ouais, c'était très dur.
Ce pays, donc l'Éthiopie, le rapport entre l'individu et le photographe peut parfois être un peu délicat.
Bien sûr, ouais. Déjà, je pense que c'est pas vrai qu'en Éthiopie,
oui.
Le photographe, c'est celui qui prend des photos, qui capture l'image, qui se cache derrière son objectif. Au début, c'est peut-être aussi le fait qu'on soit jeune journaliste, on n'a pas encore énormément d'expérience. On a une angoisse de sortir l'appareil photo, de prendre une photo dans la rue, de la sortir et de prendre les gens parce que on peut pas toujours demander l'avis aux gens, des photos de groupe, on peut pas. Et on était bon, après on s'y habitue, on prend sur soi, on des fois même il y a des gens qui nous interpellent de loin en disant tu me prends en photo, dis oui, on biaise des fois aussi, c'est pas vraiment pas évident, c'est un peu angoissant.
Entre un journaliste qui demande à prendre une photo et un touriste, est-ce qu'il y a une différence de traitement par rapport à...
On essaie de l'expliquer, nous. C'est vrai qu'il y avait, on essaie d'expliquer qu'on pouvait pas. Il y a des touristes en fait, surtout dans le sud, les femmes à plateau, etc. Les gens avec des grandes scarifications ethniques qui se font payer. Ben, c'est une habitude qui a été prise. Et nous, on essayait toujours d'expliquer pourquoi on était là. On était là pour raconter des choses, que notre métier, c'était d'aller voir les gens et de raconter comment ils vivaient. Et je crois qu'il y a des gens, ben, pas mal de gens le comprenaient, en fait. On s'est aperçu au fil...
Moi, je suis pas sûre. Enfin, encore, hein, mais... Je pense que pour quelqu'un, la photo, de toute façon, ils savent que c'est un journal télévisé, une photo, hein, loin de là, mais... des journaux français, c'est leur est complètement égal que ça soit dans le tiroir d'un touriste qui montre ça à sa famille, que ça soit lu par des millions de lecteurs en France, pour eux. Enfin, je pense que moi, à mon avis, ils font pas la différence, quoi. Ils sont pris en photo et ils essayent forcément de rentabiliser cette photo. Et c'est là où on intervient en disant, nous, c'est notre métier. Si on vient à payer pour faire notre métier, il y a un problème. C'est le principe qu'ils peuvent comprendre, mais le résultat pour eux est le même, hein, à mon avis.
Donc, ce voyage a duré combien de temps ?
2 mois.
2 mois. Qu'est-ce qui change entre le début de ce voyage et la fin ?
Ouais, il y avait déjà le côté, le rapport qu'on avait à la pauvreté qui avait changé, ce qu'on s'était blindé au fil du temps et qu'on commençait à rire en fait des choses qui nous faisaient mal au début. On riait pour pouvoir exorciser et mieux vivre les choses. C'est que les choses qui, de voir des gens qui étaient dans des petites barquettes à roulettes puisqu'ils avaient plus qu'un tronc en fait et leurs 2 bras, au début ça donnait envie de vomir, ça donnait des haut-le-cœur. Et après, ben, finalement, c'est une question d'habitude. On essayait de rire pour mieux le vivre. Et aussi, ben, je crois qu'il y a peut-être qu'on a vu aussi pas mal de ressemblances avec chez nous. Ben, on s'est attaché à beaucoup de gens.
on s'est attaché, puis on s'habitue, on apprend à vivre, on apprend à voir comment ça marche, comment faut faire, et on arrive, on est un peu hésitant, on se fait avoir par les taxis, on est méfiant, je pense, au début, et au bout de 2 mois, on a mal au cœur de repartir, parce qu'il y a certains endroits, Addis Abeba, donc où on est resté, la capitale où on est resté le plus longtemps, il y a des endroits où on était chez nous, on allait toujours dans notre petit restaurant, le petit boui-boui du coin de la rue qui nous reconnaissait, le petit gardien lycée français, oh, bonjour, il nous reconnaissait. On sentait, en 2 mois, on apprend, surtout quand on est à l'étranger, où il faut se forcer à aller vers les autres, surtout dans le genre de métier on évolue, on apprend à aller vers les autres, et en 2 mois, on peut lier très facilement. D'amitié, le mot est peut-être fort, parce que ça va peut-être pas jusque-là, mais à se sentir bien avec les gens se sentir bien avec nous, et un petit passement au cœur, partir, ouais, c'est sûr. Ouais.
Est-ce que ça vous encourage à y retourner, et pour faire quoi d'autre ?
Ah oui, ça, pour y retourner, on est quasiment sûr d'y retourner, ce qui est presque dommage, c'est pas d'y retourner rapidement, parce que tout le travail fait, on se dit, il faudra peut-être recommencer, parce que les choses s'oublient, hein, c'est un apprentissage... On revient vite à la réalité en France et on passe à une autre réalité. Et après, bon, mais on est très, très motivé pour repartir et pour différents travaux journalistiques, de photo-reportages aussi qu'on a dans un coin de la tête et qu'on aimerait bien réaliser. Ouais.
On est tombé amoureux d'une route, en fait, qui traverse de... c'est quoi, d'est en ouest, ouais. C'est ça l'Éthiopie, qui s'appelle la route chinoise, puisque ça a été construit par des Chinois sous le régime communiste de Mengistu. Et c'est un endroit pour nous qui résumait, pas toute l'Éthiopie, mais qui résumait une bonne partie du pays, parce que c'est là où on voyait les écoliers qui faisaient 7 heures de route pour aller à l'école le matin, et pareil le soir pour en revenir. C'est là où on a vu des camions qui étaient en contrebas, qui avaient cramé parce que ils ont pas l'argent pour entretenir les routes, et que il y avait tout. C'est là où il y a les vendeurs de cacahuètes qui font arrêter les bus pour leur vendre des petits trucs. Cette route, ouais, on est tombé amoureux parce qu'elle est, pour nous, elle voulait dire beaucoup. Peut-être qu'on surestime un peu la valeur de cette route dans ce pays, mais...
Oui, et puis la route là-haut, enfin, en tout cas celle-là, l'impression qu'on en a, c'est pas simplement un point de ralliement d'un endroit à un autre, c'est un lieu de vie. Il y a les places de village chez nous en France. Là, il y a cette route où il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la route, dans les villages notamment, mais dans les campagnes aussi. C'est un lieu de vie, cette route, pour beaucoup de gens.
C'est aussi une route qui a coûté cher.
Oui, cher en vie humaine aussi. Hein, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant la construction. C'est ça aussi, il y a une histoire pendant la construction de cette route, et puis qui a coûté cher financièrement aussi à l'époque pour la construire, et qui maintenant d'ailleurs est dans un triste état.
Ce qui était un peu, ouais, ce qu'on s'est aperçu en fait, c'est que c'est la guerre qui avait beaucoup permis à l'Éthiopie de se développer. Et là, notamment la guerre avec l'Érythrée et les endroits finalement là où il y a le meilleur route, c'était là où Mengistu avait fait construire de quoi faire passer les chars.
Quoi. Ouais.
C'est fou, mais l'Éthiopie s'est construit comme ça avec des dictateurs plus ou moins éclairés qui ont fait avancer leur pays, mais dans la douleur.
Actuellement, c'est encore difficile d'arriver avec un visa de journaliste là-bas.
On s'est pas posé la question de savoir si on allait prendre un visa journaliste ou pas. On est parti en se disant on prend un visa touristique, mm-hmm. puisqu'on voulait ne jamais être limité, et certaines personnes nous avaient conseillé, qu'on a pu rencontrer dans le métier, nous avaient conseillé de jamais prendre des visas de journaliste.
Est-ce qu'on a des zones qui sont interdites d'accès ? Comment on ressent les choses ?
Oui, il y a déjà des zones dangereuses, certains coins de l'Éthiopie, Triangle Afar, enfin dans le nord-est, des zones frontalières, des choses comme ça, qui sont vraiment pas conseillé. Mmh. Et si on décide quand même, donc nous, on n'a pas eu l'occasion et pas forcément l'envie d'y aller, il est conseillé d'avoir une escorte, des boîtes privées qui escortent, un guide, on n'y va pas comme ça. Et nous, ça nous a un peu refroidi. Et c'est vrai que, oui, il y a des précautions à prendre, il y a des choses à pas faire. Hein. Je pense qu'il faut quand même être prudent, mine de rien. Et encore, c'est quoi, il y a un an, où il y a des touristes en plus, donc il n'y a pas le métier de journaliste derrière, mais c'est des touristes qui ont été enlevés en Éthiopie. Oui.
L'Éthiopie est un petit peu trop puissante dans la région et finalement est en conflit avec quasiment tous ses voisins. Donc... Mmh. C'est un peu particulier, mais voilà, on sait, il y a des régions où il y a des rafles dans les bus, où il y a des militaires qui rentrent, qui vérifient au faciès si telle personne, c'est bien celle qu'elle prétend être sur son passeport. Et voilà, il y a des gens qu'on voyait descendre des bus arbitrairement, on savait pas ce qu'ils devenaient après. Donc forcément, il y a des groupes rebelles dans certains endroits qui essayent de se battre avec leurs armes à eux.
L'exposition de photographie que vous présentez, vous l'avez faite à partir de choix particuliers, un angle ?
Au début, moi, je pensais travailler sur la question des religions parce qu'on avait beaucoup de matière en fait sur ça, autant sur surtout les catholiques et les orthodoxes. Et finalement, après réflexion et discussion, on a convenu de faire quelque chose de très une balade en fait. Vous voulez que les photos provoquent des rencontres avec des gens, les mêmes rencontres que nous on a pu avoir, raconter des atmosphères.
Puis un choix esthétique aussi de la photo, hein. C'est des photos qu'on trouve déjà nous belles esthétiquement, qui ont en plus un sens, c'était important aussi, un sens, elles représentent quelque chose, des gens, une rencontre, un reportage, un lieu, mais c'est à la base des photos qu'on souhaitait et qu'on trouvait, en tout cas nous, après c'est subjectif, hein, mais que nous on trouvait belles. Ouais.
Et vous comptez les publier, vous cherchez
Certaines l'ont déjà été et on aimerait bien publier les autres.
Oui,
bien sûr.
C'est pas évident, mais oui, bien sûr, on a du texte, on a des photos, on aimerait bien, on a des choses qui, on pense, tiennent la route. On essaye de les faire publier, mais c'est pas facile.
Non, on vous souhaite bonne chance pour à la fois ces photos et pour le prochain voyage.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
Shut up.